journal. Bonsoir Sébastien Pao.
Bonsoir à tous. Ni cigare, ni peignoir ce soir pour Patrick Balkany. Le maire de Levallois dort à la prison de la santé, condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. 3 ans pour Isabelle, qui ne comprend pas que son mari soit incarcéré. Ils font appel d'un jugement limpide, on le détaillera. Et nous sommes à Levallois, qui crie à l'injustice. Un commissaire sanctionné après la mort de Steve à Nantes. Le rapport de l'IGA estime que les conditions de la mort du jeune homme ne sont pas établies. Au sommaire également ce soir, patience et plan B pour les usagers de la RATP. Edward Snowden, entretien radio exclusif à France Inter, premier extrait ce soir, l'intégralité lundi à 8h20, la mort du chanteur de Marquis de Sade et les étranges travaux de deux chercheurs français sur la température des testicules.
France Inter.
Pas de villa pamplemousse, ni de riad à Marrakech, ni même de moulin à Giverny. Patrick Balkany passe donc la nuit à la prison de la santé. Le maire de Levallois-Perret est condamné 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale avec incarcération immédiate. Sa femme première adjointe a 3 ans ferme, mais sans mandat de dépôt. À l'énoncé du jugement, le baron des Hauts-de-Seine embrasse Isabelle, puis les policiers l'accompagnent. Et à la sortie, son avocat, Éric Dupond-Moretti, parle d'humiliation.
On a une leçon de morale publique. Et naturellement, on a oublié que ces faits étaient des faits anciens. On a résumé toute l'action de M. Balkany à sa fraude et toute sa vie à cette fraude. Mais ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Jamais personne ne peut dire sérieusement que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel. Et nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé. Et c'est singulièrement différent.
On entend la colère rentrée de l'avocat de Patrick Balkany que le parquet national financier décrivait comme un grand fraudeur fiscal qui nage dans un océan d'argent liquide. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Les mots du jugement sont sans ambiguïté.
Si la peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une incarcération immédiate est lourde, c'est que la fraude l'est tout autant, estime en substance le tribunal dans son jugement de 67 pages. Un jugement qui, en plus de revenir en détail sur les éléments de cette fraude fiscale dont se sont rendus coupables les époux Balkany des années durant, insiste sur la gravité symbolique de ces faits, en portant atteinte à l'ordre public économique, selon les termes du jugement, en aggravant la déchirure désormais ancienne du pacte républicain, en portant un lourd dommage à la solidarité nationale et à la confiance publique que chaque citoyen est en droit d'accorder aux institutions et aux élus de la nation. Bref, si Patrick et Isabelle Balkany ont fraudé à titre privé, ils ont aussi failli en tant qu'élus. Le maire de Levallois-Perret, poursuit le tribunal, a ainsi lésé les intérêts d'une République française dont il se disait pourtant le fidèle serviteur depuis tant d'années. Autant d'éléments qui, ajoutés aux 4 millions d'euros éludés par les Balkany, à ce patrimoine de 11 millions d'euros sous-évalué pour passer en dessous de la barre du 1 300 000 euros de l'USF, autant d'éléments donc qui, selon le tribunal, justifient l'incarcération immédiate de celui qui a régné sur Levallois-Perret pendant 35 ans.
Le couple est aussi condamné à 10 ans d'inéligibilité et 10 ans d'interdiction de gérer une société. Ils font appel et Patrick Balkany a déjà déposé une demande de remise en liberté. Il devrait rester néanmoins en prison au moins un mois. Il y a peu de chances qu'elle soit acceptée, cette demande de remise en liberté, avant le 18 octobre, date du second jugement, cette fois pour blanchiment et corruption. D'ici là, et même en cellule, Patrick Balkany reste maire de Levallois, qu'il dirige, on l'a dit, depuis 36 ans exactement. Bonsoir Sébastien Sabiron.
Bonsoir.
Vous rentrez de Levallois, où la plupart des habitants trouvent son incarcération injuste.
Oui, injuste, humiliant, scandaleux pour des Levalloisiens dont certains s'étaient rassemblés spontanément devant la permanence de Patrick Balkany cet après-midi, juste à côté de la mairie.
C'est un homme qui ne mérite pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qui ne se trompe pas sur ses revenus? C'est des gens de bonne foi, c'est des gens honnêtes.
Vous êtes toujours tenté de placer votre argent à l'étranger. Qui n'a pas fait ça, hein?
Pour moi, il n'a rien fait. Il a fait comme les copains, mais il paye pour tout le monde, c'est tout. Il est sympathique, on est gâté comme c'est pas possible, les seniors, vous pouvez même pas savoir.
Et chacun insistait sur la façon dont l'élu a transformé le visage de la ville, des espaces verts, des écoles, des crèches, du foie gras à Noël pour les seniors, suffisant pour l'exonérer de toute faute morale aux yeux de certains habitants.
C'est une ville propre, fleurie. On peut sortir à 3h du matin, on est bien. Il est le maire, on demande que ce soit un beau maire. Le reste, on s'en fout.
Malgré tout, quelques-uns saluent le courage et l'indépendance des juges après 30 ans d'affaires. Mais dans les rues de Levallois, il vaut mieux ne pas le dire trop fort.
La sentence est tombée. Ils ont pris ce qu'il fallait.
Pourquoi vous n'allez pas le remplacer? Allez-y en prison. Si vous êtes heureux à Levallois, c'est grâce à lui. Hein, vous êtes bien content d'aller chercher votre foie gras et votre champagne.
Vous, hein, vous savez ce que j'en fais de votre foie gras? Je le donne au SDF, madame. Alors, tellement il est mauvais.
Et en tout cas, foie gras ou non, ses soutiens en sont persuadés. Patrick Balkany, bientôt, sortira et sera blanchi. Ils revoteront pour lui avec les deux mains.
Reportage signé Sébastien Sabiron. Du côté des commentaires encore, celui d'Arnaud de Courson, conseiller municipal d'opposition à Levallois, qui pense que la peine de prison n'était pas nécessaire, que l'inéligibilité suffisait. Ou encore ce tweet de Julien Bayou, le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Le collectif Sauvons les Riches perd sa mascotte. Une belle journée pour l'égalité devant l'impôt et la justice. Fermez les guillemets.
Il est 19h06 sur France Inter, la suite du journal de Sébastien Paour. Sébastien, le commissaire chargé des opérations le 21 juin dernier à Nantes est muté.
Décision du ministre de l'Intérieur qui a reçu le rapport de l'inspection générale de l'administration sur la soirée de la fête de la musique à Nantes qui a coûté la vie à Steve Maya Canisso. Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
D'après ce rapport, le commissaire a manqué de discernement.
Oui, les conclusions de ce rapport ne remettent pas en cause la décision d'intervenir, mais la façon dont a été gérée l'opération et surtout dont elle a évolué. L'un des auteurs explique, on commence structuré puis on finit avec des policiers qui pensent à se défendre individuellement. Ce que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, résume par « la vitesse de réaction l'a emporté sur l'analyse, la sanction est donc tombée cet après-midi ».
Le commissaire divisionnaire en charge des opérations ne pourra plus exercer ses fonctions et sera muté dans l'intérêt du service, sur un emploi sans responsabilité de maintien de l'ordre, dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire.
Le rapport avance aussi d'autres responsabilités. Ses auteurs insistent sur le DJ qui a remis la musique alors que les forces de l'ordre venaient de la couper. Pour eux, la cause première des violences de la nuit est bien celle-là. Mmh. Et puis, responsabilité aussi de la ville et de la préfecture qui, selon l'inspection générale, n'ont pas accordé une attention suffisante à la présence de sound system sur le quai Wilson. Voilà donc pour les grandes lignes. Mais attention, il s'agit bien d'un rapport sur les conditions d'organisation de la soirée, pas de l'enquête judiciaire. Christophe Castaner l'a redit tout à l'heure, nul ne peut dire à ce stade avec certitude comment Steve Maya Canisso est mort.
Ariane Grissel, le côté face ressemble beaucoup au côté pile de ce matin, ce soir pour les usagers des transports en commun parisiens. Difficile de trouver un taxi ou un VTC, tout comme une trottinette ou un vélo. Tout est pris d'assaut à cause de la grève des agents de la RATP qui veulent défendre leur régime spécial de retraite. Bonsoir Mathilde Dehimy.
Bonsoir Sébastien.
Vous êtes Gare Saint-Lazare, Mathilde. Comment les choses se passent-elles ce soir à 19h07?
Bon, c'est plutôt bien. Certains vont bien dormir, en tout cas ce soir, après avoir bien marché. Souvent en jonglant avec les lignes, celles qui circulent, soit principalement les deux automatiques. Ce sera un train plutôt qu'un RER pour Véronique et Céline.
Non, il n'y a pas eu trop de soucis. On a marché un quart d'heure de plus par rapport à d'habitude.
Bon, c'était bon pour la santé. Maintenant, on va voir. On va peut-être être un peu plus compressé, on pense, au retour. Mais bon.
D'autres arrivent à la gare avec plus de stress, comme Myriam, qui a dû télétravailler avec sa fille de 2 ans, car le personnel de crèche est resté bloqué. Elle voulait rejoindre la Normandie.
Ça a été très compliqué pour venir jusqu'en gare de Saint-Lazare, parce que même en réservant un taxi 2 jours et demi à l'avance, ce taxi avait quand même 20 minutes de retard. Donc on a aussi loupé un train et on va essayer là de prendre le suivant.
La voiture, c'est finalement le point noir de cette journée. L'atmosphère sur l'asphalte est tout autre. Séverine et sa trottinette en ont fait la mère expérience.
Une voiture qui a tourné, qui m'a grillé la priorité, qui m'a roulé dessus. Physiquement, ça va, mais bon, la trottinette est pliée à l'avant. À 100 mètres devant moi, j'ai un cycliste, lui, par contre, qui a le crâne ouvert sur la voie. Je suis passée à côté de lui. On sent que c'est un peu tendu aujourd'hui.
Oui, tendu, vous l'entendez peut-être derrière moi. Heureusement, disent beaucoup, c'est le week-end. Des usagers, donc plutôt philosophes, soulagés d'avoir passé cette journée et pour beaucoup compréhensifs envers les grévistes.
Mathilde Dehimy en direct de la gare Saint-Lazare avec Benjamin Thuot. Merci à tous les deux. Les discussions reprennent la semaine prochaine et jusqu'à fin décembre avec les syndicats. Lundi, avocats kinés, chirurgiens, orthophonistes, pilotes, hôtesses de l'air ou encore stewards seront à leur tour dans la rue.
Et maintenant, direction l'Amérique, car Greta Thunberg est devant la Maison Blanche.
Oui, la jeune militante suédoise pour le climat est aux États-Unis depuis 2 semaines maintenant et elle participe ce soir, en effet, Grégory Phillips, à une manifestation à Washington. Climate change.
Elle paraît intimidée par les marques d'amitié et les applaudissements nourris de ces lycéens américains qui, avec elle, défilent devant la Maison Blanche. Greta Thunberg est au milieu. Elle porte sa pancarte en suédois sur laquelle est écrit « Grève de l'école pour le climat » et malgré une forêt de micros et de caméras, la jeune suédoise ne prend pas la parole. Elle demande simplement à ce qu'on la laisse manifester avec les autres. Autour de Greta Thunberg, ces jeunes crient que c'est leur avenir qui est en jeu. Il faut agir maintenant. C'est presque déjà trop tard, constate un lycéen venu du Maryland. Les manifestants s'arrêtent finalement face à la pelouse sud de la Maison Blanche, d'où l'on aperçoit à plusieurs centaines de mètres le bureau ovale. Donald Trump est caricaturé sur les banderoles et autres pancartes. Il doit entendre notre message, dit Katie, une collégienne de 14 ans. Il doit comprendre que les scientifiques ont raison de tirer la sonnette d'alarme. Greta Thunberg, elle, est aux États-Unis au moins jusqu'au 23 septembre, où elle doit participer à New York au sommet de l'ONU sur le climat. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Une tribune de soutien au quotidien Le Monde, signée par 500 personnalités. Il s'inquiète pour l'indépendance du journal depuis l'arrivée de son nouvel actionnaire, le tchèque Daniel Křetínský, qui n'a toujours pas donné aux journalistes un droit de regard sur les changements au capital. Parmi les signataires, le prix Nobel de la paix, Lech Walesa, l'écrivain Salman Rushdie, l'actrice Isabelle Huppert, le chanteur Dominica ou encore le lanceur d'alerte Edward Snowden, qui sera l'invité d'Inter lundi matin, seule radio française à l'occasion de la sortie de ses mémoires. L'ancien employé de la NSA a dénoncé la surveillance massive aux États-Unis. Il est maintenant inculpé d'espionnage là-bas. Et depuis son exil russe, il demande une nouvelle fois asile à la France.
C'est la chose la plus triste de toute l'histoire que je puisse imaginer. Qu'est-ce que ça signifie quand le seul lieu où un lanceur d'alerte américain puisse parler ne se trouve pas en Europe, mais au-delà?
Est-ce à dire que vous souhaitez venir en France, que vous demandez à nouveau à la France de vous accueillir?
Mais j'ai demandé l'asile en France en 2013, sous François Hollande. J'aimerais bien qu'Emmanuel Macron m'invite, mais il ne s'agit pas de la France. Il s'agit de l'Europe, il s'agit du monde, du système que nous avons. Protéger les lanceurs d'alerte n'est pas un acte hostile. Accueillir quelqu'un comme moi n'est pas une attaque contre les États-Unis, c'est plutôt une main tendue de façon amicale vers un vieil allié qui ne tient pas ses idéaux, qui a besoin l'aide de l'Europe.
Voilà pour ce premier extrait de l'entretien accordé par Edward Snowden à Léa Salamé et Nicolas Demorand. Entretien à retrouver en intégralité lundi matin à 8h20. Son livre « Mémoire vive » sort au seuil jeudi prochain.
En sport, Sébastien, un exploit et patatras.
Oui, c'est le résumé des deux derniers matchs de l'équipe de France de basket aux Mondiaux en Chine. Ils s'imposent sur le géant américain de la discipline en quart, mais ils s'inclinent largement en demi-finale face à l'Argentine, 80 à 66. Pas de finale donc pour les Bleus. Et la déception de leurs supporters venus jusqu'à Pékin, Dominique André.
Les Argentins ont soulevé l'enthousiasme du public chinois. Très rapidement, la salle leur a été acquise ce soir. Impressionné par leur rapidité et leur hargne, Monsieur Ji est un passionné.
Je trouve que Luis Scola a très bien joué. Tout ce qu'un chef d'équipe doit faire, il l'a assuré. Les Argentins sont moins bons que les Français sur le plan technique, mais ils ont eu plus envie que les Français d'avancer dans ce championnat du monde. Leur jeu d'équipe est aussi bien plus fluide que celui de l'équipe française.
Les Français ont été applaudis aussi par le public chinois, mais ils n'étaient visiblement pas en forme ce soir. Une supporter responsable d'un club de basketball est venue de Strasbourg avec quelques Français.
J'aurais dit que les Argentins étaient beaucoup plus forts que nous, le voulaient plus. Ils avaient une défense très agressive. On a essayé, mais on n'arrivait pas à passer le milieu, à donner la balle sur les extérieurs, à donner intérieur. Est-ce que les jambes suivaient plus? Est-ce que les Argentins avaient de meilleures jambes que nous? Peut-être un peu des deux. Le meilleur a gagné. Malheureusement, c'était pas les Français ce soir.
Les Argentins courent comme des mobilettes, avait prévenu hier le coach des Bleus. C'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Les Français qui rêvaient de la Coupe du Monde doivent maintenant se battre pour la troisième place. Pékin, Dominique André, Chen Yanrou, France Inter.
Oui, les coéquipiers de Rudy Gobert disputeront la petite finale dimanche face à l'Australie. La finale opposera donc l'Espagne aux Argentins. Il était connu de tous les fans de New Wave française, le chanteur de Marquis de Sade, Philippe Pascal est mort hier. Le groupe n'avait signé que deux albums à la fin des années 70, mais il était de retour sur scène depuis deux ans et préparait un nouveau disque pour l'an prochain. Marquis de Sade, proche d'Étienne Dao, inspiré du Velvet Underground et de Television, et son chanteur, souvent comparé à celui de Joy Division, Ian Curtis. Le voici, décrit par Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France, avec Adrien Serrière.
Philippe Pascal, c'était un corps en mouvement. Alors il y a ses bras comme ça qui dessinaient un espace autour de lui. Il y a ce regard de chat, cette présence féline. Moi, j'ai toujours dit que si on devait donner une définition du charisme, il y avait deux mots, Philippe, Pascal. Le charisme, c'est ça. C'est un truc comme ça, absolument sidérant, qui fait d'ailleurs que quand vous interviewez Philippe Pascal, vous êtes d'emblée dans une forme de distance, parce qu'il était impressionnant, il était beau comme un astre, il avait ce regard perçant, et en même temps, il y avait autour de lui cette aura, et on savait... sans même qu'il ait à parler ou à chanter, qu'il trimballait avec lui une sorte de géographie littéraire, politique, qui faisait de lui quelqu'un d'extrêmement structuré intellectuellement, cortexé émotionnellement. C'était quelqu'un de très impressionnant.
Philippe Pascal avait 63 ans. Est-ce que vous entendez? C'est un extrait du dernier concert de Marc Itzad aux Vieilles Charrues. Une pièce bouleversante en ouverture cette semaine du Festival d'automne à Paris, Oreste à Mossoul, c'est aux Amandiers, à Nanterre. En toile de fond, la tragédie d'Eschyle. Et comme décor, Stéphane Capron, les décombres de la ville irakienne.
Le metteur en scène Milo Rao est devenu l'un des grands spécialistes du théâtre documentaire. Il s'est rendu à plusieurs reprises avec son équipe dans la ville de Mossoul. Là-bas, ils ont rencontré des comédiens irakiens qui figurent dans le spectacle à travers des séquences filmées. Oreste, à Mossoul, établit des liens entre les tragédies d'hier et celles d'aujourd'hui. Et c'est aussi une formidable rencontre entre comédiens, une expérience inoubliable pour Johan Lessen qui interprète Agamemnon.
La dignité de ces gens, c'est ce qui m'a le plus bluffé, quoi. C'est incroyable. Parce qu'ils vivent dans l'incertitude totale, ils ne savent pas du tout ce qui les attend. Ils n'ont pas non plus une riche vie culturelle ou sociétale. Avant, c'était Al-Qaïda, avant, c'était Saddam Hussein. Donc, c'est des années et des années d'horreur. En plus, ils ne savent pas où ils vont. Et ça reste fragile. Et garder là-dedans, dans cette situation invivable, en fait, garder une dignité, c'est formidable.
Les comédiens irakiens racontent en vidéo des épisodes de leur vie. La chute de Saddam Hussein, la destruction de Mossoul en 2015 par Daesh. Les mots sont des actes de résistance. Le reste de la troupe joue des scènes de l'Orestie, d'Eschyle, le tout dans une synchronicité parfaite.
Oreste à Mossoul, c'est jusqu'à demain soir au Théâtre des Amandiers à Nanterre, puis en octobre à la Maison de la Danse de Lyon et en novembre à la Rose des Vents à Villeneuve-d'Ascq. On termine avec les Anti-Nobel, les Ignobel, mélange d'ignoble et de Nobel. Ce sont des prix qui récompensent des recherches assez loufoques, vous allez voir, mais qui posent tout de même des questions sérieuses de science. Bonsoir Sophie Becherel.
Bonsoir.
Deux Français sont récompensés cette année pour leurs travaux sur la température des testicules.
La soirée des prix Ig Nobel, c'est un mélange foutraque de remises de trophées ignobles, évidemment, d'explications scientifiques très courtes, de sketchs et de musique en présence de vrais Nobel. Et cette année donc...
Le prix d'anatomie. Le prix revient à Roger Muisset et Boras Benghoudifa pour... La mesure asymétrique de la température du scrotum chez les postiers français nus et habillés.
Il s'agit là d'une étude de terrain publiée en 2007 dans une grande revue, Human Reproduction. Car Roger Muisset, andrologue au Centre de Recherche de la Fertilité à l'Université de Toulouse, est l'un des très rares chercheurs au monde à s'être intéressé à cette question. Vous le savez, messieurs, il faut soigner vos bijoux de famille. Un échauffement excessif réduit drastiquement votre fertilité. D'où d'ailleurs l'invention par Monsieur Muisset du slip chauffant, un moyen contraceptif masculin. Mmh. Et c'est pour comprendre comment est régulée la température des testicules que ce chercheur a équipé de capteurs de température, trois groupes d'hommes, des postiers, des chauffeurs de bus et des hommes vêtus ou nus en différentes positions, allongés, debout, les jambes écartées ou croisées. Résultat, dans tous les cas, le scrotum gauche est légèrement plus chaud que le droit, 0,03 degrés de différence. Cette asymétrie va de pair avec la taille des testicules, le gauche est plus petit que le droit, chez 9 hommes sur 10, vous vérifierez ce soir. Vous allez penser, on finance vraiment de drôles de recherches. Détrompez-vous, ces résultats ont été essentiels
essentielle pour les problèmes de fertilité masculine et aussi dans la compréhension de la survenue du cancer des testicules.
Bon, vous me coupez un peu la chic, Sophie Bessel, mais c'est très sérieux. Il y a encore plus de détails, je crois, sur franceinter.fr. N'ayons peur
vous
de rien.
Tout.
Reculons devant aucun sacrifice. Merci. Ça n'a rien à voir avec ce qui précède à Henri Bérec et Ronan Mahé, qui étaient aux manettes des journaux de France Inter, 13h, 18h et 19h toute cette semaine, Claire.
Merci beaucoup, Sébastien Pavot. On va passer à d'autres températures, peut-être, maintenant, hein, avec la météo.
Faisons
dans
ça.
Un instant.